l'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Sixième épisode.
Du gracieux entretien que Sancho eut avec son maître. Et d'autres événements fameux dignes d'être rapportés. Heureux, trois fois heureux, le siècle où l'intrépide chevalier Don Quichotte de la Manche vint au monde. Car en formant le noble dessein de ressusciter l'ordre de la chevalerie errante que l'on croyait mort et enterré, il nous offre en ces temps si pauvres en distraction le plaisir d'écouter sa belle et véridique histoire. Sidi Ahmed Ben Engeli raconte dans cette grandiose, minutieuse, ingénieuse et plaisante histoire que l'illustre Don Quichotte et son écuyer Sancho Panza s'éloignèrent en toute hâte de cette auberge qui leur avait réservé tant de mésaventures et qu'ils cheminèrent quelque temps en silence.
Monsieur, ces aventures que nous cherchons finiront par nous attirer tellement d'ennuis que nous ne saurons bientôt plus reconnaître notre pied droit. Si je peux me permettre de donner mon avis, je crois que nous devrions rentrer chez nous.
On voit que tu n'y connais rien, Sancho, en matière de chevalerie. Tais-toi et prends patience. Le jour viendra où tu verras de tes propres yeux combien l'exercice de cette profession est honorable. Car enfin, dis-moi, quelle satisfaction y a-t-il en ce monde ? Quel plaisir qui puisse égaler celui de triompher au combat et de vaincre son ennemi ? Aucun, je t'assure.
C'est possible, mais je n'en sais rien. Tout ce que je sais, moi, c'est que depuis que nous sommes chevaliers errants, ou plutôt depuis que vous l'êtes, monsieur, parce que je n'ai pas l'honneur de compter au nombre de ces personnes, la seule fois que vous avez gagné, c'était contre le Biscayen. Et encore, vous y avez laissé la moitié d'une oreille et de votre visière. Depuis, quand ce n'est pas à coup de bâton qu'on nous tombe dessus, c'est à coup de poing, avec pour moi l'avantage supplémentaire d'être berné par des gens enchantés. De qui je ne peux pas me venger, ce qui m'empêche de savoir jusqu'où peut aller le plaisir de vaincre l'ennemi dont vous parlez.
C'est bien là ce qui me chagrine, Sancho, et ce qui doit te faire enrager. Mais dorénavant, je m'arrangerai pour avoir une épée si magistralement forgée qu'elle nous mettra à l'abri de tous les enchantements.
J'ai tellement de chance, moi, que même si vous arrivez à vous procurer une épée comme vous dites, je parie que ce sera comme pour la potion. Elle ne profitera qu'à ceux qui ont été armés chevaliers. Et les écuyers, qu'ils aillent se faire voir.
N'aie crainte, Sancho. Le ciel saura être favorable.
Ils s'entretenaient de la sorte lorsque Don Quichotte vit au loin un épais nuage de poussière qui s'avançait vers eux.
Voici enfin le jour, Sancho, où va se manifester tout le bien que ma destinée me réserve. Voici le jour, dis-je, où va paraître, plus qu'aucun autre, la force de mon bras, où je vais accomplir des exploits dignes de figurer dans le livre de la renommée pour les siècles à venir. Tu vois, Sancho, ce tourbillon de poussière. Il s'élève sous les pieds d'une armée innombrable qui vient vers nous, composée de gens de toutes les nations.
À ce compte-là, ce n'est pas une, mais deux armées qui arrivent, puisqu'il en vient autant de l'autre côté.
Tu dis vrai, Sancho.
Et nous, monsieur, qu'est-ce que nous allons faire ?
Ce que nous allons faire ? Apporter aide et secours aux faibles et aux opprimés. Apprends, Sancho, que cette armée qui marche droit sur nous est commandée par l'illustre Ali Fanfaron, empereur de la grande île de Taproban. Et cette autre qui arrive de l'autre côté est celle de son ennemi, le roi des Garamantes, Pantapolin à la manche retroussée, qu'on appelle ainsi parce qu'il combat le bras nu. À présent, suis attentivement ce que je vais te dire et regarde bien. Je veux te faire connaître les principaux chevaliers qui conduisent ces armées. Et afin que tu puisses les observer à ton aise, retirons-nous sur cette éminence d'où l'on peut les apercevoir toutes deux.
Ils gravirent une hauteur d'où ils auraient pu, en effet, distinguer les deux troupeaux que Don Quichotte prenait pour des armées s'ils n'avaient été aveuglés par tant de poussière.
ce chevalier aux armes dorées que tu vois là-bas est le vaillant Lorcalco, seigneur du pont d'argent. Cet autre, dont l'armure est frappée de fleurs d'or, est le redoutable Mico Colombo, grand-duc de Chirossi. Ce géant à sa droite est l'intrépide chevalier Branda Barbaran de Boliche, seigneur des Trois Arabies.
Il lui nomma un si grand nombre de chevaliers des deux camps, attribuant sans hésiter à chacun les armes, les couleurs, les emblèmes et les devises que lui suggérait son étrange folie.
Cet escadron que nous fait face est composé de gens de diverses nations. Il y a ceux qui boivent les douces eaux du célèbre Santé, ceux qui habitent les territoires montagneux de Massilie, ceux qui tamisent la fine poudre d'or de l'heureuse Arabie, ceux qui peuplent les frais et célèbres rivages du limpide Thermodon, ceux qui détournent et saignent de maintes façons le pactole doré, les Numides aux promesses trompeuses, les Perses archers fameux.
Notre chevalier était intarissable. Que de provinces il cita, que de nations il nomma, donnant à chacune, avec une célérité inouïe, les attributs qui lui convenaient, tant il était imprégné de ce qu'il avait lu dans ses livres mensongers.
Ceux qui foulent sur leurs pas, les riches s'ébattent dans les prairies élyséennes ou dans la Manche, riches et couronnés. Ceux qui, caparaçonnés de fer, descendent.
Que le diable m'emporte, monsieur. Il n'y a ici ni géants, ni chevaliers, ni tous ces gens que vous dites. Moi, du moins, je ne les vois pas. Ça doit être encore une histoire d'enchantement comme les fantômes de la nuit dernière.
Comment est-il possible, Sancho, que tu n'entendes pas le hennissement des chevaux, la sonnerie des clairons, le roulement des tambours?
Moi, monsieur, je n'entends que des moutons qui bêlent.
C'est la peur, Sancho, qui t'empêche de voir et d'entendre comme il faut, car elle a, parmi d'autres effets, celui de troubler les sens et de faire que les choses paraissent autrement qu'elles ne sont. Mais si ta frayeur est trop grande, mets-toi à l'écart. Je saurai, à moi seul, donner la victoire au camp que je soutiendrai.
Mais revenez, monsieur! Au nom du ciel, revenez! Ce sont des moutons et des brebis que vous allez attaquer! Ah, quel malheur! Vous êtes fous! Il n'y a pas plus de géants que de chevaliers, pas plus de peaux de serpent que d'armoiries, ni de synapes, ni rien du tout! Oh, misère, mais qu'est-ce que vous faites?
Juste à l'ennemi! Suivez-moi, chevalier, qui combattez sous le drapeau du vaillant empereur Pantapola à la manche retroussée. Vous allez voir que je serai facilement le venger, terrible ali fanfaron de la Tarpane.
Sur ces mots, il se rua au milieu de l'escadron de moutons et se mit à distribuer des coups de lance avec autant de fureur et de courage que s'il transperçait ses plus cruels ennemis. Les gardiens et bergers qui menaient le troupeau lui criaient d'arrêter. Mais, voyant qu'ils ne les écoutaient pas, ils délièrent leur fronde et commencèrent à lui chatouiller les oreilles avec des pierres grosses comme le poing. Il en fallait plus pour inquiéter Don Quichotte qui courait de tous côtés.
Où es-tu, orgueilleux Ali Fanfaron ? Viens-y ! Je suis seul et c'est dans ton combat singulier que je veux mettre tes forces à l'épreuve et compter la vie pour venger l'affront que tu fais subir à Pantapola, roi des Garamantes.
À ce moment-là, un caillou l'atteignit qui lui enfonça deux côtes.
Me voici grièvement blessé, mais heureusement, j'ai avec moi l'élixir miraculeux.
Avant qu'il eût avalé la dose qu'il jugeait nécessaire, une deuxième pierre vient briser le flacon qu'il tenait à la main et, chemin faisant, lui emporta trois ou quatre dents et lui écrasa deux doigts.
Diantre, nous l'avons tué.
Les bergers réunirent en toute hâte leurs troupeaux, chargèrent les bêtes mortes sur leurs épaules et filèrent sans demander leur reste. Sancho était resté tout ce temps sur la colline à contempler les folies de son maître, s'arrachant la barbe à pleines mains et maudissant l'heure et l'occasion où le sort l'avait mis sur sa route. Mais voyant Don Quichotte tomber à terre et les bergers déjà loin, il descendit pour lui porter secours. Son maître n'était pas évanoui, mais en fort piteux état.
Ah, monsieur, je vous avais bien dit qu'il fallait faire demi-tour. Que ce que vous alliez attaquer, c'était pas une armée, mais un troupeau de moutons.
Cela te montre le pouvoir qu'a ce diable d'enchanteur, mon ennemi, de transformer ou de faire disparaître les choses à son gré. Apprendre qu'il est très facile à ces gens-là de nous faire voir ce qui leur plaît et que ce misérable qui me poursuit, en vue de la gloire que j'allais gagner dans cette bataille, a changé les deux escadrons de soldats en troupeaux de moutons. À présent, Sancho, j'ai besoin de ton aide. Approche et regarde combien il me manque de dents, car j'ai l'impression qu'il ne m'en est pas resté une seule dans la bouche.
Sainte-Vierge, qu'est-ce qui m'arrive encore?
Ce pauvre homme doit être blessé à mort, il rend le sang par la bouche. Oh, mais morbleu, c'est pas du sang. Cesse d'année, élixir.
Sancho fut pris alors d'un tel dégoût que le cœur lui tourna et qu'il vomit ses tripes au nez de Don Quichotte. Et les voilà tous les deux bien arrangés. Sancho revint vers son âne pour chercher dans son bissac de quoi s'essuyer et panser son maître. Quand il s'aperçut qu'il ne l'avait plus, il faillit perdre l'esprit.
Maudit soit le sort qui m'a fait croiser le chemin de cet homme. Qu'il aille au diable et sans moi. Cette fois, c'est décidé, je vais le laisser là et m'en retourner chez moi, quitte à perdre mon salaire. Et tant pis pour l'archipel.
Entre-temps, Don Quichotte s'était levé et, mettant sa main gauche devant sa bouche pour empêcher les quelques dents qui lui restaient de tomber, il saisit de la droite la bride de Rocinante et alla rejoindre son écuyer qu'il trouva appuyé contre son âne, la joue dans la main, l'air sombre et pensif.
Apprends, Sancho, qu'un homme n'est supérieur à un autre qu'autant qu'il en fait plus que lui. Tous ces orages qui s'abattent sur nous sont autant de signes que le temps va bientôt se mettre au beau et nos affaires suivre un cours meilleur. Ni le mal ni le bien ne sont durables. Par conséquent, le mal ayant beaucoup duré, le bien doit être proche. D'ailleurs, tu ne dois pas t'affliger des malheurs qui m'arrivent, puisque tu n'en as aucune part.
Comment aucune? Ce n'était peut-être pas le fils de mon père qu'on a fait sauter sur une couverture pas plus tard qu'hier? Et le bissac qu'on m'a pris avec toutes mes affaires dedans, il n'était pas à moi peut-être?
Tu as perdu ton bissac?
Oui, je l'ai perdu.
Ce qui veut dire que nous n'avons rien à manger aujourd'hui. Alors, remonte sur ton âne, mon brave Sancho, et suis-moi. Dieu, qui pourvoit à tout, ne saurait nous abandonner. Il n'abandonne ni le moucheron dans l'air, ni le vermisseau sur la terre, ni le têtard sous l'eau. Il fait briller sa lumière sur le bon et le méchant, et fait pleuvoir sur l'injuste comme sur le juste.
Vous, monsieur, vous étiez fait pour être prédicateur plutôt que chevalier errant.
Les chevaliers errants savaient et doivent savoir un peu de tout.
Je veux bien croire ce que vous dites. Mais partons d'ici et tâchons de trouver où loger cette nuit. Fasse le ciel que ce soit dans un endroit où il n'y ait ni couverture, ni berneur, ni mort enchantée, ni fantôme. Parce que s'il y en a, j'enverrai tout au diable.
Eh bien, demande-le à Dieu, Sancho, et prends le chemin que tu voudras. Je te laisse pour cette fois le soin de nous choisir un logement. Mais d'abord, donne-moi ta main et tâte avec le doigt combien il me manque de dents en haut à droite. En.
Vous voyez? Grand. Et vous en aviez combien de ce côté-là?
4, sans compter la dent de sagesse, toute parfaitement saine et en bon état.
Vous êtes bien sûr de ce que vous dites, monsieur?
J'ai dit 4, mais c'était peut-être 5. Parce qu'on ne m'en a jamais arraché aucune. Il ne m'en est point tombé et je n'en ai point eu de gâté par la carie ni par une fluxion.
Alors ouvrez grand. Eh bien en bas, vous n'en avez plus que 2,5. Et en haut, pas même la moitié d'une. C'est aussi ras que la paume de ma main.
Oh, je suis bien malheureux. J'aurais préféré qu'on m'arrachât un bras, à condition que ce ne fût pas celui qui tient l'épée. Apprends, Sancho, qu'une bouche sans dents est comme un moulin sans meule, et que l'on doit estimer une dent 1000 fois plus qu'un diamant. Et voilà à quoi sont exposés ceux qui, comme moi, ont choisi de suivre les dures lois de la chevalerie. Allons, Monte sur ton âne et marche devant. Je te suivrai au pas que tu voudras.
Sancho fit ce qu'on lui ordonnait et se dirigea du côté où il pensait trouver à se loger. L'obscurité les surprit en chemin alors qu'ils n'avaient pas trouvé d'abri pour la nuit, ce qui était d'autant plus ennuyeux qu'ils mouraient de faim. Car en perdant le bissac, ils avaient perdu garde, manger et provisions. Tandis qu'ils marchaient ainsi dans le noir, ils virent venir vers eux, sur le chemin qu'ils suivaient, de nombreuses lumières qui étaient comme autant d'étoiles en mouvement.
Sancho, voici sans doute venir à nous la plus grande et la plus périlleuse des aventures où il me faudra prouver ma force et mon courage.
Pauvre Don Juan. Si c'est encore une aventure de fantôme comme ça m'en a tout l'air, cette fois-ci il ne me restera plus une seule côte en bon état.
Tout fantôme qu'il soit, je ne permettrai pas qu'il touche à un poil de ta veste.
Et s'il vous enchante et vous ramollisse comme la dernière fois?
Quoi qu'il en soit, je te demande Sancho d'avoir du courage. L'expérience te montrera quel est le mien.
J'en aurai, s'il plaît à Dieu.
Et s'écartant un peu de la route, ils se remirent à considérer ce que pouvaient être ces lumières qui marchaient. Très vite, ils distinguèrent une vingtaine au moins d'hommes en chemise blanche, tous à cheval et tenant chacun une torche à la main. Derrière eux venait une litière tendue de deuil, suivie par 6 autres cavaliers dont les habits noirs couvraient jusqu'au pied de leur monture, qui devaient être des mules et non des chevaux, à en juger par leur lenteur. Et il ne cessait de marmonner d'une voix basse et plaintive. Cette étrange apparition, à une heure si tardive et dans un lieu si désert, avait de quoi emplir d'effroi le cœur de Sancho et aussi celui de son maître. Mais si l'écuyer abdiqua tout courage, il n'en fut pas de même pour le maître qui s'imagina aussitôt que c'était là une aventure comme on en trouvait dans ses livres.
Arrêtez, messieurs, qui que vous soyez! « Dites-moi qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez et ce que vous portez sur ce brancard. Selon toute apparence, ou vous avez offensé quelqu'un, ou l'on vous a fait quelque outrage. Il convient que je le sache, pour vous punir du mal que vous avez infligé ou vous venger du tort que vous avez subi. »«
Nous sommes pressés. L'auberge est encore loin et nous ne pouvons prendre le temps de répondre à toutes vos questions. »«
Arrêtez-vous et montrez-vous plus poli. » Si vous ne voulez pas répondre à mes questions, préparez-vous à combattre.
La mule était ombrageuse. Se sentant prise par le mort, elle se cabra et se renversa par terre sur son cavalier. Un des valets qui marchait à pied, voyant tomber son maître, se mit à injurier Don Quichotte, qui déjà fort en colère, baissa sa pique et sans attendre davantage, fondit sur l'un des hommes en deuil et l'envoya rouler dans la poussière, durement touché. Puis il se retourna contre les autres. Il fallait voir avec quelle promptitude il les attaquait et en venait à bout. On aurait dit qu'il avait poussé des ailes à Rocinante, tant son allure était vive et fière. Les hommes en blanc abandonnèrent rapidement la partie et s'enfuirent à travers champs avec leurs torches allumées. Quant aux hommes en noir, empêtrés dans leurs jupes et leurs soutanes, ils ne pouvaient pas remuer.
Il n'y a pas de doute, mon maître est vraiment aussi fort et courageux qu'il le prétend.
Cependant, à la lueur d'une torche qui par terre brûlait encore, Don Quichotte, apercevant l'homme que la mule avait renversé, alla lui mettre la pointe de sa pique sur la gorge.
Je vous somme de vous rendre, ou au moindre mouvement, je vous tuerai.
Mais comment voulez-vous que je bouge? J'ai la jambe cassée. Je vous supplie, si vous êtes bon chrétien et gentilhomme, de ne pas me tuer.
Mais qui diable vous amène ici, si vous êtes homme d'église?
Sachez, monsieur, que je m'appelle Alonso Lopez. Je viens de la ville de Baeza avec 11 autres prêtres, ceux qui ont filé avec les torches. Nous allons à Ségovie pour y accompagner le corps du gentilhomme que nous portons dans cette litière. Il est mort à Baeza, où il a été inhumé temporairement. Mais comme il est né à Ségovie, c'est là qu'il aura sa sépulture.
Ah, et qui l'a tué?
Mon Dieu, d'une fièvre maligne qu'il lui a envoyée.
En ce cas, le Seigneur m'a épargné la peine de venger sa mort. Car si le meurtrier n'est autre que Dieu, on ne peut que se taire et s'incliner. Sachez à présent, mon révérend, que je suis un chevalier de la Manche, nommé Don Quichotte, et que j'ai pour profession d'aller par le monde redresser les torts et réparer les préjudices.
Redresser les torts ? Eh bien moi qui étais droit, vous m'avez tordu, puisque cette jambe ne se redressera plus pour le restant de mes jours. Hein ? Quant à réparer les préjudices, vous venez de m'en causer un irréparable. Si je comprends bien, il n'y a pas pire mésaventure que de tomber sur un chercheur d'aventure.
Les choses ne sont pas toujours comme on pense.
À présent, je vous supplie, monsieur le chevalier errant, que j'aurais préféré voir errer ailleurs, de m'aider au moins à me dégager, car j'ai la jambe prise entre l'étrier et la selle.
Oh, j'aurais continué à parler jusqu'à demain. Qu'attendiez-vous donc pour me le dire ? Sancho, viens donc m'aider à dégager ce brave homme. À présent, mon révérend, je vous conseille de rejoindre vos compagnons.
Et si ces messieurs vous demandent qui est le vaillant chevalier qui les a mis dans cet état, vous leur direz que c'est le fameux Don Quichotte de la Manche, qu'on appelle aussi le chevalier à la triste figure.
Pourquoi donc, Sancho, m'as-tu appelé le chevalier à la triste figure à cette occasion plutôt qu'à une autre ?
C'est que je vous regardais à la lumière de la torche que porte ce pauvre homme. Et vraiment, monsieur, il y a longtemps que je n'ai pas vu une aussi vilaine figure. C'est sans doute la fatigue de la bataille, ou bien toutes ces dents que vous avez perdues.
Ce n'est pas cela, mais le savant homme à qui il appartient d'écrire l'histoire de mes exploits aura jugé convenable que je prenne un surnom, comme en avaient tous les chevaliers du temps passé. Et il t'aura donc soufflé ce nom de chevalier à la triste figure que j'ai l'intention de porter désormais. Et afin qu'il s'applique encore mieux à ma personne, je m'engage à faire peindre sur mon écu, dès que l'occasion s'en présentera, la plus triste des figures.
Oh, ce serait vraiment perdre votre temps et votre argent, monsieur. Vous n'avez qu'à montrer la vôtre à qui voudra bien la regarder. Croyez-moi, vous n'aurez besoin ni de peinture ni d'écu pour mériter ce nom-là. À présent, partons d'ici en vitesse.
À suivre. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Un feuilleton adapté par Juliette Eman.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Et publié aux éditions du Seuil.
Conseillère littéraire, Catel Guillou.
Sixième épisode
avec
Daniel Königsberg,
Bernard Ménez,
Laurent Ferraro
et Pierre Rochefort.
Musique originale, Sébastien Schuller.
Bruitage, Elodie Fiat.
Prise de son, montage, mixage,
Benjamin Vignal,
Mathieu Leroux.
Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet.
Réalisation, Cédric Ossier.